Nous sommes arrivés en Belgique donc avec ce camion et on nous a mis dans un train de je crois, troisième classe. Enfin, nous sommes arrivés en Belgique donc avec ce camion et on nous a mis dans un train de je crois, troisième classe, enfin un train très confortable et nous étions joyeuses et gaies d'être dans un train, non pas dans un train dans des wagons à chevaux comme avant. Et on avait à manger et on a papoté, on s'est amusé et tout ce qui me préoccupait moi personnellement. J'étais donc avec Myriam, avec cette jeune fille. Comment vais-je trouver mes parents? Jusqu'à présent, j'étais sûre de les retrouver. Maintenant que j'étais libre, j'ai réfléchi, est-ce que je vais les retrouver? J'espère que je vais les retrouver. Et comment vais-je les retrouver? Parce que d'appartement, on n'en avait plus. On a pris notre appartement. À partir du moment où on est parti de là-bas, on a réquisitionné l'appartement, on n'a jamais pu revoir notre appartement. Donc je ne savais absolument pas où me diriger. Et c'est ça qui me préoccupait dans le train. Naturellement, on a admiré le paysage, naturellement, on a mangé à satiété. Pour nous, c'était quelque chose de formidable. D'ailleurs, je me suis promis, moi qui n'aime pas faire la cuisine, lorsque j'étais au camp, je me suis dit, la première chose que je vais faire en rentrant, je vais faire toujours la cuisine. Tout le temps, je ferai la cuisine, que la cuisine, pas autre chose que la cuisine. Et naturellement, notre conversation au camp, qu'est-ce que c'était? Dans ton histoire, qu'est-ce que tu as mangé à la maison, qu'est-ce que tu as fait, quel genre de, comment tu fais ta soupe. On avait l'impression de manger en racontant. Donc, dans le train, on commençait à faire les menus, on s'est dit, bon, on va rentrer, on va faire ci, ça. Mais, on ne parlait plus de la déportation. Je ne sais pas si on a rencontré des gens. Simplement, nous étions préoccupés, vraiment, savoir comment on va retrouver les parents. Ça, c'était l'essentiel. Et où est-ce qu'on va être, et où est-ce qu'on va loger, et qu'est-ce qui va nous arriver, et comment Myriam va retourner à Lyon, cette jeune fille, etc. C'était notre préoccupation. Le voyage a duré simplement, je crois, 3 heures, 3 heures et demie. Je ne sais même pas, c'était un train spécial, je crois, pour nous. Je ne sais même pas si c'est arrêté quelque part. Je vous dis franchement, je ne me rappelle pas. Je ne crois pas, parce que si les gens seraient montés dans le wagon, on aurait parlé avec les gens. Or, je ne me vois pas parler avec personne, seulement. Nous avons rempli pas mal de wagons. Et ce n'était pas des trains comme il y a actuellement, TGV et tout le reste. Et ce n'était pas ces trains-là. C'était des wagons comme ça, des teuf-teuf, mais qui allaient, je crois, directement à cause de nous à Paris. C'est spécialement réservé. Alors, nous sommes arrivés à Paris, justement. Alors, à Paris, on est descendu. Et là, on était livrés à nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on a vu à la gare? Des tas de gens avec des photos. Nous attendaient à la sortie, à la gare du Nord. Avec les photos, ils savaient que c'était un train de déportés. Vous voyez, justement, c'était un train de déportés qui venait. Et ils sont venus avec des photos, demander, est-ce que vous avez vu cette personne? Est-ce que vous avez vu cette personne? Est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que vous les avez vus au camp? Comment leur expliquer que des gens habillés, joliment, coiffés joliment, et des gens tondus, rasés, et dont on ne connaissait même pas le nom, seulement la matricule, comment leur expliquer que nous, on ne pouvait pas connaître ces gens-là? Le camp était très grand. On leur a dit, ah non, mais il me semblait, oui, vous allez le revoir bientôt. Mais qu'est-ce que vous voulez leur dire? Et je sais que ma mère, j'ai entendu par la suite, que ma mère allait tous les jours avec ma photo. Et que juste ce jour-là, elle ne se sentait pas bien, elle n'est pas venue. Et tous les gens qui étaient là-bas cherchaient à savoir qu'est-ce qui s'est passé. On ne pouvait rien leur dire, rien. Je suis donc, nous sommes déjà sortis, on avait un petit peu d'argent qu'on nous a donné. Alors qu'est-ce que j'ai pu faire? Moi, je suis allé à la synagogue où mon père officiait, dans la rue Cadet. Je me suis mis là-bas, s'ils sont en vie, on va connaître mon père, qui, le matin, était là-bas à partir de 6 heures du matin, jusqu'à au moins 10, 11 heures, et qui, l'après-midi, allait faire sa prière l'après-midi, et qui allait faire sa prière le soir. Donc, mon père, si on ne le connaissait pas, c'est que vraiment, c'est qu'il était déporté. Alors je suis donc allé à la synagogue et je suis rentré chez la concierge. Et ce n'était pas l'heure de prière, donc il n'y avait personne à la synagogue. Et je rentre chez la concierge et je lui dis, écoutez, mon père était un rabbin, mais il était ici en chantre et il vient tous les jours. Est-ce que vous savez s'il est là? Elle me dit, non, moi je ne connais pas du tout votre père. Alors je me suis dit, si elle ne connaît pas mon père, c'est que mon père a été déporté. Et je me suis évanoui, là vraiment je me suis évanoui, carrément. J'ai tellement espéré, j'ai tellement pensé que je vais les retrouver vivants, que quand j'ai su que cette concierge, que mon père saluait joliment en enlevant son chapeau tous les jours, c'était très poli, et qu'elle ne le connaît pas, donc c'est qu'il était déporté. Alors elle m'a donné un petit peu de eau-de-vie, je ne sais pas quoi, elle m'a tapoté la joue, et elle me dit gentiment, ma petite dame, moi je suis là que depuis hier, je ne veux pas connaître votre père. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça tout de suite? Bon, je suis sorti, et dans cette rue Cadet, il y a un club de diamantaires. Il y avait un club de diamantaires. Alors j'ai vu un monsieur, un juif dehors, qui attendait quelqu'un, certainement. Je m'approche, et je lui demande, dites-moi, est-ce que vous connaissez monsieur Stern, peut-être le rabbin Stern? Le rabbin Stern? Mais je comprends que je le connais. Ah, vous êtes la fille qui était déportée. Mon Dieu! Mais c'est une joie! Mais c'est moi que vous voyez pour la première fois. Je dis, ils sont vivants? Oui. J'avais des larmes aux yeux. Je ne pouvais plus parler. Je dis, mais dites-moi où ils habitent. Ah, il dit, non, moi je veux vous emmener. Je veux avoir la mitzvah, c'est-à-dire je veux avoir la joie de vous emmener à vos parents, moi. Mais il me dit, écoutez, il y a juste une petite chose, c'est que j'ai une affaire de 1,5 million. Je dois donner une pierre à quelqu'un qui l'attend. Et dans 5 minutes, cette personne est là. Je dis, écoutez, monsieur, moi je connais Paris comme ma poche. Je suis presque né. J'avais 3 ans quand je suis venu. Vous me dites où ils habitent, je ne veux pas que vous ratiez votre affaire. Je veux aller tout de suite. Moi, je ne veux pas attendre 5 minutes. J'ai attendu 1 an. Je ne veux pas attendre 5 minutes. Alors il me dit, ils habitent rue Faubourg Saint-Denis. Mais vous savez quoi? Moi, je vais vous emmener. Tant pis, je laisse mon affaire. On verra. Si Dieu veut m'aider, je le ferai après aussi. Je veux être moi le premier à vous emmener. Et il m'a amené à la côté de la gare du Nord, on est retourné. Et rue Faubourg-Saint-Denis, c'est une rue qui monte. Et en montant la rue, en bas de la rue, je vois mon beau-frère qui descend la rue. Je dis à ce monsieur, écoutez monsieur, retournez vite à votre affaire. J'ai mon beau-frère qui est là. Il va m'amener, maintenant je sais, moi je connais cette rue. Je vais aller, j'ai pas besoin de vous, mais je me souviendrai. Il me dit, souvenez-vous de mon nom et ne m'oubliez jamais. Je m'en suis souvenu pendant plusieurs années, mais je ne sais plus du tout qui c'est. Mais je me souviens de lui comme ça, par le visage. Et effectivement, il est parti. Et ce que j'ai entendu par la suite, c'est que ce monsieur avait une pierre tout à fait rare et que son bonhomme qui devait venir l'acheter, ne le voyant pas, dès qu'il l'avait revu, il lui a sauté presque au cou et lui dit, écoute, je sais que cette pierre est rare, moi je te donne le double, mais donne-moi cette pierre. Et il a vendu cette pierre le double de ce qu'il devait vendre. Et ce double, il l'a donné pour les œuvres. Et il m'a dit, voyez comme un bienfait n'est jamais perdu. Il est venu après chez mon père, il est venu nous visiter souvent, il nous a raconté l'histoire. Donc mon beau-frère, les effusions, il m'a dit, écoute, fais attention, maman est très malade, elle n'est pas en bonne santé, elle a une bronchite chronique, elle n'est pas très bien. Il ne faut pas que ça surprenne que tu viennes là. Je te conseille de faire entrer Myriam et simplement de dire qu'elle t'a vu et que tu es en bonne santé, que tu vas revenir et petit à petit comme ça leur faire comprendre que tu es vivante. Elle dit, moi je ne supporte pas, je suis trop sensible, je ne supporte pas les émotions, je te laisse aller, je te dis où c'est. On était à 2 pas de là-bas. Effectivement, et lui il a continué son petit chemin, il a très bien fait d'ailleurs. Et puis nous sommes montés, et alors l'appartement se composait d'une entrée, et dans le temps, on ne sonnait pas, on n'avait pas besoin, il n'y avait pas tous ces cambrioleurs, on tournait la poignée, puis on rentrait, tout simplement. Donc il y avait une entrée, il n'y avait personne. Et ensuite, on frappait pour entrer dans l'appartement. Alors, je rentre dans l'entrée, et Myriam, je dis, tu frappes, je reste là, et tu vas rentrer, et tu vas dire qui tu es, et tu vas dire que tu m'as vu, que je suis en bonne santé, et que je vais rentrer et que je vais venir, mais laisse la porte entrouverte, que je regarde un peu. Et Myriam fait ce que je lui demande, et elle commence à raconter, et naturellement, moi, je ne tenais plus du tout, et je me suis précipité dedans. Et je ne vous dis pas l'émotion qu'on a eue à trouver mon père, ma mère. J'ai trouvé ma mère complètement changée, vieillie, par les maladies, par le chagrin de me voir déporté. Et mon père m'a pris dans les bras, et il m'a dit, je savais que tu te débrouilles et que tu reviendras vivante. Alors ça, je peux vous dire que sortir une chose pareille, il fallait que ça soit mon père. Naïf comme il était, que moi je me débrouille. Je me demande comment j'ai pu me débrouiller. Je n'ai rien répondu. J'ai dit, je ne me suis pas débrouillé, c'est Dieu qui s'est débrouillé. Il me dit, je savais, mais on a fait la prière pour toi. Je dis, mais j'ai senti. Bon, alors, ma mère ne m'a plus lâché. Je vous en passe, les émotions. C'était très, très émouvant. Et là-dessus, je me retourne et j'ai dit, Myriam, tu vas rester avec nous maintenant un petit peu de jours, et puis après tu vas retourner voir à Lyon. Elle pensait retrouver sa mère. Elle m'a dit non, non, moi je veux aller tout de suite à Lyon, comme toi tu es venu chez tes parents, je vais tout de suite partir à Lyon. Et j'avais même pas le temps de me retourner, elle était partie. Vous savez, les illusions, ça a duré longtemps, ma mère m'a pas lâché, et j'ai parlé à Myriam à travers ma mère. Et je ne sais pas, je pensais qu'elle va attendre, on va manger, on va... Elle est partie tout de suite, elle s'est gênée peut-être de rester, et je ne l'ai jamais plus revue jusqu'à un certain moment. Je n'ai jamais entendu parler d'elle, je ne savais même pas où elle habitait. Je savais qu'elle habitait Lyon. Elle est partie vraiment en catimini, c'est terrible. Je me suis bouffée, mangée, comment est-ce que j'ai pu... Mais ma mère ne m'a lâché pas, je ne pouvais pas lâcher ma mère, alors... Elle est partie comme ça, elle avait peur d'être une de trop, je suppose. Bon, et puis, alors là-dessus, j'ai retrouvé mes parents, j'ai retrouvé ma sœur, et j'avais beaucoup de déportés qui venaient chez nous, se renseigner chez mon père, enfin chez moi. Et là, je peux vous dire, moi j'étais couchée, j'avais à peine 30 kilos, ma mère a vu que j'avais une peau desséchée, elle m'a dit, tu as la peau d'un âne. Aussi sèche qu'un âne parce que j'étais desséchée, elle m'a soignée, ça a beaucoup aidé pour mon retour, pour ma réintégration, d'avoir trouvé mes parents. Ma sœur était revenue donc de Suisse, cette sœur-là, avec sa petite fille, et beaucoup de déportés sont venus chez nous, et ils ont mangé avec nous, des familles de déportés sont venues me demander, qu'est-ce que je pense, est-ce que sa femme va revenir, est-ce que sa sœur va revenir. J'étais culpabilisée d'être là. Dans leurs yeux, je voyais qu'ils me culpabilisent que j'étais là. Peut-être est-ce un effet que j'avais, mais je me suis gênée. D'abord, je me suis gênée de leur dire que s'ils n'étaient pas revenus jusque maintenant, ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Ça, je ne pouvais pas leur dire. De toute façon, je ne leur aurais pas dit. Mais j'étais culpabilisée, tout simplement. Je ne sais pas si vous me comprenez, que je me suis gênée, moi, d'être revenue avec ce que j'ai subi, et que sa femme, ce monsieur, n'est pas revenu, et que la sœur de ce monsieur n'est pas revenue. C'était quelque chose... Et j'ai dit à mon père, écoute, à un moment donné, arrête. Ne me fais plus venir, je ne peux plus. Je ne peux pas, ça me dépasse, je ne peux plus. Mentir, je ne peux pas, et je ne veux pas me culpabiliser comme ça. Il me dit, mais tu es ridicule, qu'est-ce que tu te culpabilises? J'ai dit, pourquoi moi je suis là et pas elle? C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas savoir. Enfin, des déportés, je les ai acceptés, ils sont tous venus. Et malheureusement, vous avez beaucoup de déportés qui ont eu le typhus. Mais qui l'ont... C'est-à-dire qui n'ont pas eu le typhus, mais qui ont attrapé un virus de typhus. Et qui l'ont entraîné chez nous. Et ma petite nièce, qui était une petite de 2 ans de ma sœur, a attrapé ce virus de typhus d'un des déportés, et elle en est morte. Elle n'a pas supporté, elle est morte petit à petit, peut-être quelques mois après, là, c'était violent, mais vraiment violent. Mon beau-frère que j'avais rencontré l'a attrapé. Mon beau-frère, on l'a emmené à l'hôpital, il est resté très longtemps à l'hôpital, et il a été à moitié paralysé par cette maladie. la parole et m'a marché. Il a reçu des boutons épouvantables sur tout le corps. Je ne sais pas comment que ça s'est passé. Et la petite est morte quelques mois après, et elle est morte une nuit dans mes bras. C'est juste cette nuit que ma sœur a pu s'assoupir. Et je peux vous dire que j'étais absolument insensible à cette mort. J'étais à tel point insensibilisé que je sentais, ça m'a fait mal au cœur pour ma fille, pour ma sœur. Ça m'a fait terriblement mal au cœur. Une superbe petite fille de 2 ans et demi. Mais je ne peux pas dire que d'avoir tenu un cadavre dans mes bras m'a fait quelque chose. J'étais mortifié de ça. J'étais très peiné. Je me suis dit, comment est-ce que je ne peux pas ressentir ce que je ressens une personne normale? Alors que c'est vrai que même au camp, souvent, on avait des cadavres partout. On en a vu qui sont morts ici, à droite, à gauche, sur les routes, partout. Alors on était rassasiés de cadavres, si on peut dire, malgré nous. Je n'ai rien senti. Seulement le matin, quand ma soeur s'est réveillée, j'ai dû lui dire que la petite n'était plus. J'ai dit, écoute, Dieu a pris son âme, mais ne sois pas fâché, tu auras d'autres enfants. Ce qu'on m'a dit à moi, je lui ai répété. Alors, elle, c'est une catastrophe, c'était terrible. Et c'est là, ça m'a sensibilisé de l'avoir pleuré, de l'avoir vraiment presque hurlé. Et ce sont ces déportés qui sont venus, qui ont amené cette maladie. Et mon beau-frère, encore actuellement, aujourd'hui, n'est pas du tout, est normal de tête, tout à fait, mais a une parole très difficile et une démarche pas tout à fait comme une démarche normale. On n'a pas pu le guérir entièrement. Mais je me suis remise. Bon, ils ont quitté la maison, eux, ils sont allés habiter un appartement qu'on a trouvé difficilement. Mes parents n'ont jamais retrouvé leur appartement, ni leurs meubles, ni rien. On a tout réquisitionné. Et c'était des gens très antisémites, je crois que c'est les cartes Blondel, qui ont voulu faire un procès, comme quoi on a quitté l'appartement, on n'est pas revenu, alors que nous étions revenus. Actuellement, moi j'ai fait le retour à la ligne de démarcation pendant la guerre, en cachette, mais ils n'ont jamais rien voulu nous redonner, donc on habitait ce petit appartement en attendant. Ma soeur a trouvé un autre appartement, et après on a retrouvé un appartement rue Croix-des-Petits-Champs. On a repris. Moi, j'ai commencé difficilement à reprendre contact avec le genre humain. Je peux vous dire que l'argent ne me faisait plus aucun effet, mais alors aucun, autant que les cadavres, rien. Je me suis dit que l'argent, c'est zéro. Quand j'ai vu ce qui se passe au camp, avec ces millionnaires et ces richards qui sont partis comme des mouches, je me suis dit que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Il en faut pour vivre. Mais ça m'était, j'étais complètement détaché du côté matériel, entièrement. Je ne savais même pas de quoi vivaient mes parents. Ça ne m'intéressait pas du tout. Bon, on vivait pas d'une façon formidable, mais on avait de quoi manger, on avait de quoi s'habiller. Donc j'avais à peu près dans les 25-30 kilos. Je me souviens que maman m'avait acheté des bas qui ne me tenaient pas aux jambes parce que c'était des baguettes de tambour, alors qu'actuellement ce n'est pas du tout le cas. Alors j'ai passé mes journées à aller dans des fondations, de faire des papiers et de voir comment je peux retrouver mon mari, ma belle-sœur et tous ceux qui étaient déportés avec moi. J'ai jamais pu savoir. Bon, on nous a. Alors, j'ai omis de vous dire que lorsque nous sommes arrivés à Paris, alors ça, il faut que je vous le dise parce que c'est superbe, nous avons été reçus à l'hôtel Lutetia, tous les déportés. C'est vrai que c'est là que j'ai commencé. C'est par là que j'aurais dû commencer parce qu'on nous a carrément amenés de la gare du Nord à l'hôtel Lutetia avant. C'est après que j'ai été voir seulement à la synagogue. À l'hôtel Lutetia, on avait une table dressée, je ne vous dis que ça. Il y en avait pour les yeux, il y en avait pour la bouche, il y en avait pour tout ce que vous voulez. Super. Où est-ce qu'on a vu ça, nous? Mais il fallait d'abord passer par tous les guichets pour faire une identité. Une vraie identité. Ensuite, on nous a donné une chambre merveilleuse. C'était un hôtel, je crois, 4-5 étoiles. Alors, tout de suite, Myriam, qui était avec moi, m'a dit, qu'est-ce qu'on prend? Les serviettes? On va les amener avec nous pour avoir de quoi manger. J'ai dit, Myriam, c'est fini. Ça, c'était avant. Maintenant, on est rentré dans une vie normale. Écoutez, elle avait 15-16 ans, c'était une enfant. Moi, j'étais déjà mûre, j'avais 21 ans. Maintenant, on a une vie normale. On ne prend plus rien et on ne mange plus que cachère. Alors, ce qu'on va prendre en bas, ce sont des fruits. Et ici, on termine la section pas cachère. Alors, quand on a déjà eu tout ce qu'on avait besoin, ils nous ont donné 5000 francs anciens, dans le temps, un ticket de métro spécial. Et avec ça, nous sommes partis justement avec le métro. On a pris des fruits dans la poche. Ça, c'est vrai qu'on s'est bourré les fruits dans la poche. On a pris une pomme et on a mangé la pomme en prenant le métro. En prenant le métro, il y avait un poinçonneur, non pas des lilas, mais un poinçonneur des tickets de métro, dans le temps. Et il nous poinçonne nos tickets, il regarde, il dit, tiens, c'est un ticket spécial, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, nous revenons de déportation d'Auschwitz. Ah, ben dis donc, vous avez bonne mine, vous avez dû avoir la belle vie là-bas. J'ai dit à Myriam, ce trognon de pomme, je me retiens de lui jeter à la figure. Je l'ai laissé parler parce qu'il n'y avait pas à qui raconter, il n'y avait pas à qui parler. Et nous avons pris le métro, donc, jusqu'à Calais, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est que on ne pouvait, même à mes parents, je ne pouvais absolument pas raconter ce qui s'est passé. Ça ne me sortait pas de la bouche. Tout ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas voulu croire. Et tout ce qu'ils ont cru, ils n'ont pas voulu me le dire, pour ne pas me faire la peine. Et moi, je ne pouvais rien leur raconter. Parce que c'est par pudeur, comment on peut raconter tous les malheurs qu'on avait là-bas? C'était pas possible de raconter. Ils n'auraient même pas cru. Qui aurait cru tout ce que nous avons vu? On ne pouvait pas croire. Et pendant des années, je n'ai rien raconté et je n'étais pas la seule. Et j'ai admiré cette doctoresse qui, elle, a pu raconter tout de suite. Et je crois que ce Primo Levi a aussi raconté. Et moi, je ne pouvais pas raconter. Je ne pouvais pas. C'était au-dessus de mes moyens, au-dessus de mes forces. Et on ne m'a pas tellement demandé non plus. Les gens, je peux vous dire que les gens ne tenaient pas tellement à savoir. Ils voulaient savoir grosso modo qu'est-ce qui s'est passé et comment on s'en est sorti et que ça ne devait pas être tellement terrible vu qu'on avait... Donc, on m'a fait grossir, on m'a retapé, j'étais en bonne forme. Donc, c'était pas aussi terrible qu'on pensait. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? C'était pas possible. Et c'est passé comme ça, des années. C'est passé 3 ans. Et après 3 ans, maman n'était pas du tout en bonne santé. Elle avait une bronchite chronique assez poussée. Il n'y avait pas les docteurs et les médicaments qu'il y avait actuellement. Et ils ont trouvé que, enfin moi, j'étais très très heureuse, enfin heureuse, j'étais contente de mon sort. Je travaillais un petit peu de comptabilité, un petit peu de secrétariat, je gagnais ma vie, pas mal. J'ai donné l'argent à mes parents, ça ne m'intéressait absolument pas. Mais ils m'ont acheté ce qu'ils ont voulu, les vêtements ne m'intéressaient pas non plus, j'étais libre. Vous savez ce que ça veut dire la liberté? Ça veut dire, je pouvais faire ce que je voulais. Alors ça, c'était pour nous le prix. C'était pas l'argent et le manger. Alors le manger, c'est autre chose. Lorsque j'ai commencé, je suis arrivé de déportation, sur la table, lorsqu'ils ont débarrassé les assiettes, je n'ai laissé jeter aucun mie de pain qu'il y avait sur cette table. J'ai ramassé la nappe, j'ai mis tous les mies de pain dans l'assiette. Je ne vous parle pas des morceaux, je vous parle des mies de pain qui restent. Et je les ai mangés. Et pendant des mois, je n'ai jamais rien laissé. Vous savez, les mies de pain, parfois, on prend la nappe et on le secoue. Jamais j'ai laissé pendant des mois faire ça. À tel point, ça m'était resté la faim et ce que c'est que le manger. Alors, c'est uniquement le manger et puis, bon, la liberté et de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est ça qui m'a soutenu pendant très longtemps. Et mes parents, naturellement. Et mes parents ont trouvé, bon, j'étais sûr que je retrouverais mon mari. Il y a bien des nuits où j'ai repensé, j'ai pleuré, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Bon, ma mère savait, pensait que j'étais très rapprochée avec ma mère tout le temps, d'ailleurs. Mais je n'ai jamais sorti un mot de mon mari. Mais j'ai vu qu'après 3 ans, si lui n'est pas revenu, c'est que vraiment qu'il n'est pas revenu. Et puis j'étais bien, je ne pensais pas du tout à me refaire une vie. Et mes parents m'ont beaucoup poussé, ils m'ont dit, écoute, ça ne va pas. Il faut absolument refaire surface. Il faut que tu te refondes une famille. Tu vois bien que tu n'as pas de nouvelles, rien du tout. À ce moment-là, mon père a quitté la rue Cadet. Il est devenu rabbin à la synagogue Rachi, qui est rue Ambroise Thomas. C'est une synagogue ashkénaze. Et comme il avait tout, il était un puits de science, mon père, et qu'il avait tout pour être rabbin, ils l'ont nommé rabbin là-bas. C'était donc sa vraie place. Et c'est là qu'il officiait. Et dans cette synagogue sont venus, il y avait beaucoup de déportés qui ont été dirigés sur Paris. Plusieurs sur l'Amérique, quelques-uns en Israël et beaucoup sur Paris. Et cette synagogue était remplie de Polonais et de Hongrois déportés qui sont revenus de déportation. C'était archi bourré, vraiment plein. Il n'y avait pas tellement d'Ashkenazim, non, de Sephardim encore à ce moment-là. C'est-à-dire des gens d'Afrique du Nord, ils n'étaient pas encore là. Donc il y avait quelques synagogues comme ça, qui étaient des synagogues d'Ashkenazim, c'est-à-dire des gens d'Europe centrale. Et parmi lesquels, mon mari actuel, qui était déporté en Roumanie et qui est revenu du camp et qui on les a dirigés sur Paris. Ils étaient 8 enfants, donc les 4 sont restés en vie. Il y en a un qui était dirigé en Autriche, un de ses frères était dirigé en Suisse et un autre frère était dirigé en Allemagne. Et lui, il s'est dirigé sur Paris avec sa sœur. Et à Paris, où est-ce qu'il va aller? On les a mis dans un hôtel où il était des déportés, rue Richelieu, l'hôtel Cusset, je me rappelle encore aujourd'hui. Et il est venu prier donc tous les jours, parce qu'il sort d'une famille très religieuse aussi. Toute sa famille a été déportée, femme, enfant, père, mère, grand-mère, tout ça, ils ont été tous déportés de Roumanie. Il n'avait plus aucune famille qui restait. Il est venu donc prier dans cette synagogue. Et où mon père était rabbin. Et c'était un érudit en sciences talmudiques également. Et lorsque mon père demandait des questions, lorsqu'il faisait ses discours, il y répondait tout le temps. Et alors mon père, ça lui a beaucoup plu, ce monsieur. Et il est rentré à la maison un jour, on me dit, écoute, il y a un jeune homme formidable ici, je suis sûr que c'est pour toi, etc., etc. Je lui dis, écoute, moi, je n'ai pas du tout l'intention de me marier. Je suis votre gagne-pain pour le moment, et qui c'est qui va s'occuper de vous? Ça va pas, je veux pas, je ne me marie pas, j'ai pas besoin. Je vais attendre encore un petit peu. Non, 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 on ne sera pas toujours là, maman était malade. Enfin, ils m'ont tellement baratiné qu'ils m'ont emmené ce jeune homme et qu'il n'a pas démarré de la maison. Il est resté là pendant des heures et des heures et il est revenu, et il est revenu, et il est revenu, et il est revenu. Et c'est comme ça que. À la fin, je me suis laissé faire par papa. Bon, il était très sympa, il était surtout très gentil, et surtout c'était un déporté. Je voulais pas me marier, je ne voulais me marier qu'avec un déporté, parce que je ne voulais pas avoir des reproches par la suite de quoi que ce soit. Si j'ai une nostalgie, si je me sens pas bien, ou si je ne peux pas avoir d'enfant par toutes les suites que j'ai eues, ou n'importe quoi, qu'un homme bien portant qui n'a pas été déporté ne comprendrait jamais. Et lui, c'était exactement pareil, il ne voulait se marier qu'avec quelqu'un qui était déporté. Parce que lui, il a vu énormément de choses atroces, atroces. Et que lui, il ne pouvait pas s'habituer à les chasser de sa pensée. Et il ne voulait pas avoir quelqu'un qui lui reproche ça aussi. Donc, il faut croire que nous étions faits pour nous entendre. Et nous nous sommes mariés le 1er décembre 1947, à la synagogue Rachi. Et bon, on avait d'abord beaucoup de mal à s'entendre, puisque lui parlait pas le français. Moi, je parle un petit peu yiddish, pas beaucoup. Yiddish, c'est la langue juive. Mais je parle hongrois, et lui parlait aussi un petit peu l'hongrois, puisqu'il est de Roumanie, du côté de la frontière hongroise. Mais enfin, pour se disputer, c'était difficile dans cette langue, donc on ne s'est pas tellement disputé. Mais enfin, en hongrois, on s'est compris. Moi, j'ai continué à apprendre le yiddish avec lui, et lui, il est tout de suite. Il a parlé un peu français, il parlait très bien l'anglais. Parce que lui, il est venu à Paris uniquement pour partir en Amérique. C'était un transit. Et tous ses frères, là où ils étaient, étaient en transit pour partir en Amérique. Ils attendaient ce qu'on appelle un affidavit, ça veut dire le certificat pour pouvoir partir en Amérique. Et lui était à Paris, et comme jeune homme, il a essayé de faire qu'est-ce qu'il a pu faire. Il avait appris à, pas comme dentiste, mais mécanicien dentiste, mais il n'était pas français, donc il ne pouvait pas travailler. Et il avait une instruction de non-religieux, pas très poussée, comme c'était, il a fait 7 ans d'instruction religieuse là-bas, dans une yeshiva, dans une école où on n'apprenait que ça, mais il avait une instruction jusqu'au brevet à peu près. Mais ça ne suffisait pas pour la France. Il parlait un petit peu français, pas beaucoup. Donc il ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit peu de marché noir avec des montres. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à ce moment-là en attendant qu'il parte? Il s'est fait un peu d'argent et il voulait partir. Et lorsqu'il a été une fois chez un bijoutier à Saint-Paul, c'était le quartier juif, à Saint-Paul, le monsieur lui dit, écoute, il n'était pas encore du tout fiancé à ce moment-là, il n'était même pas question, il lui dit, écoute, je vais te raconter mon histoire. Moi, j'ai été déporté. Je suis venu à Paris en transit. Et ici, on m'a fait faire la connaissance d'une femme. Et je suis resté coincé. Fais attention que ça ne t'arrive pas. Il dit, pas de danger, moi j'ai mes frères là, qui veulent aller là-bas, chez moi, ça ne marchera pas. Et lorsqu'il est retourné après qu'il s'était marié, il dit, tu vois, je suis dans le même bain que toi. J'ai fait la même chose que toi, mais Dieu merci, bon, on est ensemble. Et on s'est promis, tous les deux, lorsqu'on s'est mariés, qu'on ne va jamais, jamais parler de notre passé. Ça, sa famille, ma famille, on laisse tomber, enfin, mon ancienne famille, et on va faire un avenir sur une chose solide. Nous nous sommes mariés et nous nous sommes dit, avec mon mari, que nous n'avons pas évoqué le passé, parce que si on fonde un avenir sur un passé, c'est foutu d'avance, enfin, c'est vraiment pas faisable. Si toi tu parles de ton malheur, moi je parle de mon malheur, et on va se parler de nos malheurs, qu'est-ce qui va se passer? Ça marche pas. Alors on s'est dit qu'on va pas parler de notre passé, on va fonder un avenir. Et on va, avec l'aide de Dieu, on va essayer de fonder cet avenir. Ben, fonder un avenir quand on n'a pas de métier dans la main, tel que mon mari n'avait pas de métier. Chez eux, son père, ils avaient une très grande forêt, et ils avaient une scierie. Et c'était immense, ils avaient une affaire extraordinaire. Il y avait 6 garçons et 2 filles, 6 costauds. Jamais son père a pensé qu'il faut donner un métier à un enfant alors qu'il y a cette scierie. Et que ça peut comporter même 12, 13, 14 enfants pour travailler là-dedans. Donc il n'avait pas vraiment un métier spécial. Il a appris un petit peu technicien dentiste. N'étant pas français, parlant très peu le français, il ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce que l'on pouvait faire pour gagner de l'argent? D'autant plus que la première année, j'ai attendu un bébé avec beaucoup de joie. J'ai vu que, Dieu merci, j'étais en ordre, ce dont j'avais un petit peu peur. Et bon, alors, il n'était pas français et il a été représentant d'Abi. C'est ça, il savait déjà un petit peu le français, il est allé dans l'école apprendre et il a été représentant d'Abi. Mais comme il n'avait pas le droit de voyager seul, étant donné qu'il n'était pas français, pas encore à ce moment-là, j'ai dû voyager avec lui. Alors, on a voyagé beaucoup pour faire la présentation, pour vendre. On a vendu des trousseaux, on a vendu des habits. C'était très très dur. Je vous dis qu'il y a 10 jours, on a mangé vraiment une pomme. C'est tout ce qu'on avait. Et bon, on a fait ce qu'on a pu. On n'a jamais rien dit à personne. Ma famille n'était pas du tout... ma famille savait qu'on n'était pas riche, mais ne savait pas qu'on était à tel point gêné. On avait reçu une petite somme en cadeau et une petite somme de mes parents. Lui n'avait pratiquement presque plus rien. Il avait un petit peu d'argent, mais enfin pas grand-chose. Bon, on a habité rue... D'abord, on était avenue des Gobelins. Là, on avait une petite histoire au 5e étage, d'une très jolie maison, mais sans ascenseur. Bon, j'ai eu mon premier bébé, et j'ai eu un deuxième garçon, 14 mois après. Et là, on avait un petit problème parce que le locataire d'en dessous était un maniaque qui avait juste une fille et qui ne supportait pas les craquements de parquet. Donc, on n'avait absolument pas le droit de marcher, seulement en chaussons, et seulement jusqu'à 10 heures. À tel point que lorsqu'on marchait après 10 heures, qu'on ne pouvait pas se coucher, il est venu et dès que mon mari ouvre la porte, il le tapait, etc. Et mon mari ne s'est pas laissé faire. Il lui a donné un de ses coups. Mon mari était un grand malabar dans le temps. Il avait 78 kilos. Il était 1,76 m, 77. Bon, il était un costaud. Et puis, il lui a fiché un coup. Il lui a rendu son coup. Le type est allé tout de suite porter plainte qu'il était invalide à 100%. Et on nous a convoqués au commissariat. Alors, en commissariat, nous, on connaissait un commissariat du 3e arrondissement. On a contacté ce commissaire qui a contacté le commissariat du 13e. Et lorsque lui, il a pensé qu'il est arrivé, c'est un maniaque, c'est un fou. Lui, il a pensé qu'il est arrivé là-bas et que le commissaire le connaissait, qu'il va être accepté, que le jugement va être rendu et qu'on nous. C'est pas qu'on nous interdise de marcher, qu'on nous interdise des tas de choses. Or, le commissaire, il a commencé lorsqu'on est arrivé au tribunal. Le commissaire était là et lui a dit, monsieur, je ne me rappelle même plus son nom, il dit, monsieur, dites-moi, est-ce que vous êtes tout à fait normal? Il dit, quoi? Pourquoi vous me demandez ça? Vous me connaissez très bien, je suis normal. Il dit, justement, je vous connais de trop. Ça fait je ne sais combien de plaintes que vous portez, que vous portez tout le temps plainte contre tous les gens. Ça, c'est des gens, ils se mettent des chaussons. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent sur moi? Ils ne peuvent pas marcher sur la tête. Ou vous déménagez, ou vous leur fichez la paix. Ou alors je vous enferme. Un des trois. Alors le type était complètement sidéré. Bon, on est resté un an, et puis on a vu que ce n'était pas la peine de continuer. Et on a trouvé un appartement rue des Tournelles. Alors rue des Tournelles, ce n'était pas la joie non plus, parce que je ne savais pas qu'il y avait cette petite dame de rue qui était là-bas. J'ai vu l'appartement à 9h du matin. Bon, mes enfants étaient petits. Ce n'était pas encore très grave. Il y a juste mon fils aîné qui avait 6 ans et qui demandait toujours qu'est-ce que la dame attend. J'ai dit, elle attend son père. Ah ben, elle attend son père pendant toute la journée. Elle en a de la patience. Bon. On est resté provisoirement 10 ans là-bas. On ne pouvait pas faire autrement. Bon, on s'est débrouillé. On a commencé un petit peu à remonter la pente. On a travaillé dur. J'ai dû mettre les deux enfants dans une maison d'enfants. Pour pouvoir continuer à voyager avec mon mari tant qu'il n'est pas devenu français. À partir du moment où il est devenu français, il s'est déjà débrouillé, il a voyagé seul, et on était toujours rue du Tournelles. J'ai eu une petite fille entre-temps, bon, puis j'ai eu une autre petite fille, on a remonté encore un peu la pente, il a travaillé pour lui-même, et lui, il a pris des représentants. Alors là, j'ai fait le secrétariat qui se composait de toute la nuit à travailler parce que les gens ne payaient pas tellement bien, c'était par traite et fallait. Bon, enfin, on s'est débrouillé, Dieu nous a aidés et on s'est débrouillé petit à petit. Entre-temps, maman est partie, maman est morte, justement de maladie et de tout ce qu'elle a travaillé. Il faut vous dire que nous avions une maison à la maison de mon père où tous les déportés qui n'avaient pas où manger étaient amenés à la maison pour manger le Shabbat, samedi. Et ma mère, je ne savais jamais combien de personnes venaient. Et il fallait toujours qu'elle prépare plein de choses. Et il n'y avait pas des choses à acheter tout fait. D'abord, mon père n'aurait jamais mangé. Et on n'avait pas des choses. Il n'y en avait pas, toutes ces choses-là. Et donc, ma mère a été usée par le travail. Elle a fait ça avec beaucoup de joie. Et on avait toujours 15 personnes qui venaient comme ça, au pif. Mon père disait à la choule, ah, vous n'avez pas où manger. Allez, venez à la maison, venez à la maison. Il y en avait qui n'étaient pas riches. Mais il y avait des gens qui étaient riches. Mais il n'avait pas tellement de restaurants cachers et surtout pas le samedi. C'était pas ouvert. Il n'y avait pas ces magnifiques sfardim qui sont arrivés de l'Afrique du Nord qui ont fait toutes ces belles choses qu'il y a aujourd'hui. Et ben voilà. Et alors donc maman a été usée par le travail et elle était aussi un gagne-pain dans la maison parce que comme rabbin mon père il gagnait pas lourd mais il faisait ça avec beaucoup de joie et donnait des cours et tout. Il était un puits de sens. À sa mort, il a laissé un panier d'osier comme ça, avec rien que des écritures de la Torah, qu'on a réunies et qu'on a fait un petit livre, juste un petit, avec une toute petite partie de son savoir. Et ça m'a terriblement touché. Je suis devenu presque malade à la mort de ma mère. Enfin, on a remonté la pente, tout doucement, et on a déménagé. Elle a trouvé cet appartement. On a continué à faire un peu de confection, non pas à faire, mais à vendre de la confection. Et un jour, quelqu'un lui a dit qu'on a besoin d'avoir du vin de Bordeaux, appellation contrôlée, cachère. Ça n'existait pas. Et le rabbin de la rue Pavée, dans la synagogue de la rue Pavée, le rabbin Rothenberg, que son âme repose en paix, a dit à mon mari, on va faire ça ensemble. Lui, comme rabbin, il va venir pour surveiller, pour voir. Et mon mari va faire le vin avec des jeunes gens. Ils sont allés à Bordeaux, ils ont contacté des viticulteurs et ils ont fait le premier vin cachère Bordeaux, appellation contrôlée. Il y a plusieurs années de ça. Et ensuite, il a ouvert un magasin rue des Rosiers avec un associé. Et ça nous a remis un petit peu en surface. Dieu nous a aidés. Bon, on s'en est sortis. Les enfants, on avait 5 enfants. Ils ont fait des études. C'est-à-dire, j'ai reçu une fois en 1968, je crois que c'était au moment de la débâcle des étudiants, j'ai reçu la médaille de la mère méritante. Je vous dis ça entre deux, ce n'était pas mon mérite à moi, le mérite de mon mari également. Je suis d'abord tombée sur un homme extraordinairement gentil et très très bon, ce qui est une très grande qualité, et très patient, encore une plus grande qualité, surtout envers moi. Et nous sommes, Dieu merci, très heureux. Ça fait 47 ans que nous sommes mariés, comme on dit jusqu'à 120, on espère. Et on n'a jamais vraiment, vraiment, on n'a jamais reparlé du passé ensemble. Donc, je reviens à mes enfants. J'ai le grand qui a fait des études d'ingénieur électronique à Grenoble. Le deuxième a fait marketing, tout en faisant des études talmudiques à côté tous les jours. Nous avions un rabbin qu'on a payé à l'heure, tous les jours, 4 heures, pour ces deux garçons, pour qu'ils fassent des études talmudiques en même temps. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente en argent, mais on a mis tout ce que l'on pouvait dans les enfants. Ils ont fait des sports d'hiver, alors qu'on n'avait pas tellement les moyens, mais on n'avait pas d'argent de côté, on n'avait pas d'appartement de côté, c'était en location. On avait la voiture parce qu'on était obligé, parce que c'était représentant. Mais Dieu merci, on avait de quoi manger tous les jours. Les enfants avaient des sports d'hiver, ils sont allés en vacances l'été, ils ont fait des études, tout ce qu'on a pu, on a mis dans les enfants. Si c'était à faire, je le referais encore aujourd'hui. Et alors, là, j'ai commencé un petit peu à refaire surface, vu que j'avais plus besoin de faire du secrétariat. Et alors là, on m'a contacté, mes enfants étaient dans une école juive, ici, à Yverdon, et on m'a contacté. Moi, j'ai tout balayé dans mon cerveau, je ne voulais plus penser à rien. Je n'ai pas oublié, mais je me suis dit, je ne veux pas vivre avec, parce que je ne veux pas mettre sur le poids sur mes enfants de cette déportation. Et je n'ai pas vraiment raconté à mes enfants ce qui s'est passé. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que j'ai été mariée une fois et ça a été assez délicat de leur parler de ça. Je ne voulais pas qu'ils se sentent culpabilisés d'une façon ou d'une autre. Vous savez, on a des idées un peu saugrenues quand on revient de déportation. C'est caché en vous-même, mais automatiquement, vous n'y pensez pas, mais c'est en vous profondément. Alors, comme je ne voulais pas parler de mon passé, que mon mari ne voulait pas parler de son passé non plus, on a pensé que ce n'était pas la peine que les enfants soient au courant de ça. Bon, d'autant plus qu'ils n'étaient pas tellement âgés encore à ce moment-là. Et bon, et puis la deuxième chose, c'est que d'avoir eu un enfant qu'on a supprimé tout de suite, ça pouvait les traumatiser. J'ai pensé que ça pouvait les traumatiser et ils vont rêver qu'eux aussi, on va en faire autant. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des enfants. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment ça travaille, ce que vous racontez à un enfant la nuit. Ça les travaille, et quand ils étaient très bien tous ensemble, alors ils ont certainement dû. Ils auraient peut-être posé cette question, est-ce que tu penses que nous aussi, on peut nous tuer comme ça? Est-ce que les Allemands peuvent venir pour nous tuer? Je ne voulais pas les traumatiser. Pourquoi est-ce que j'avais besoin de. Moi-même, je ne voulais pas raconter déjà. Alors, je ne voyais pas pourquoi je devais les traumatiser. Mais je peux vous dire que mes enfants étaient un peu au courant, parce que moi, j'avais un cartable avec mes papiers que j'ai mis dans l'armoire. Et naturellement que les enfants, l'armoire n'était jamais fermée. Et naturellement, mes enfants étant très curieux, surtout grands et très débrouillards, ont sorti ce cartable pendant que moi, je n'étais pas là. Et ils ont tout vu. Ils ont donc vu, j'ai un acte de naissance de l'enfant, j'ai mon livret de famille encore de mon premier mariage. J'étais obligée parce que je devais faire un acte de décès, je devais faire des tas de choses pour pouvoir me remarier. Donc, ils ont tout vu, mais ils ne m'ont jamais rien dit. Alors, donc, 40 ans après, lorsque mes enfants étaient déjà grands, on m'a contacté de l'école où mes enfants étaient, et la directrice que j'ai connue lorsqu'elle est née, je connaissais sa mère, puisque mes enfants sont rentrés. D'abord, je connaissais sa mère parce qu'elle était dans la synagogue. Moi, je suis rentrée à Paris. Je suis venue à Paris, j'avais 3 ans. Elle me connaissait déjà de là-bas. Elle est devenue directrice de cette école. Donc, je l'ai contactée. Et j'ai connu ses enfants quand ils sont nés. Et mes enfants étaient dans cette école. Et donc, sa fille m'a contactée. Elle est devenue directrice à son tour. Et elle m'a dit, Madame Davidovici, vous devez venir parler aux élèves. Aux élèves de la terminale. J'ai dit, parler de quoi ? Elle me dit, de parler de votre déportation. J'ai dit, non, ça jamais. Ça, je vous dis, il en est hors de question. Moi, j'ai vécu mon passé. J'ai eu une chance inouïe. Vraiment, c'est aussi un des miracles que j'avais, que j'ai pu chasser ça de mon esprit, tout en ne l'oubliant pas. Mais je l'ai chassé pour me refaire, refonder une famille, et ne plus parler de ça. Mais Madame Davidovici, il faut parler, il faut absolument parler, les jeunes ne savent pas, ils veulent savoir, et il faut qu'ils sachent pour que ça ne recommence pas. Moi, j'ai dit non. Et elle m'a relancé comme ça pendant plusieurs jours, et après j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, si une femme, elle est très intelligente, c'est la femme du rabbin Chlamet. Madame Chlamet est une femme très très intelligente. Si elle me dit que c'est très très important de parler, peut-être que c'est important de parler. Et c'est peut-être pour ça que je suis revenue. Et ça m'a travaillé dans la tête. Quand elle m'a retéléphoné pour la xème fois, je lui ai dit, écoutez Madame Chlamet, je veux bien essayer, mais je ne vous promets pas, je ne pense pas que je pourrai parler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai promis, un jour, c'est un lundi, je crois, dimanche soir, à la place de dormir, je me suis remémoré toute mon histoire. Et j'ai pris des notes. Parce qu'après 40 ans, c'était difficile, étant donné que je l'avais chassé un petit peu de ma mémoire. Et je me suis pris des notes. Naturellement, je n'ai pas dormi toute la nuit. Et le matin, je me suis dit, comment que ça va se passer? Elle m'a dit, vous en faites pas, je suis sûre que c'est votre cœur qui parlera et que vous allez voir, ça va très bien se passer. Alors je suis arrivée, j'étais très émue. Des grandes filles, de 17, 18 ans, 16 ans. C'est la première fois que je parle en public, je ne suis pas une grande parleuse de cela. Et je me suis dit, avec les jeunes, ils vont chahuter, qu'est-ce que ça va se passer et... Alors je me suis assise, j'avais une table, j'avais un micro. Et j'ai commencé à parler, à raconter. Et je vous dis que j'ai posé mes lunettes. Je n'avais absolument pas besoin de papier. Ça s'est carrément déroulé dans ma tête comme un film, au fur et à mesure. Je n'ai pas entendu une mouche voler. Et ça a duré 1h30, mon exposé. Et je n'arrêtais pas de parler et parler. Et j'étais très émue, surtout au moment de... J'évoquais la naissance de mon enfant. Et alors, pour ne pas montrer mon émotion et pour refouler un petit peu mes larmes, j'ai serré mon micro très fort dans les mains, ce qui m'a permis d'avoir mal aux mains et ne pas avoir mal au cœur tellement. Et j'ai pu... Mais j'ai vu des yeux s'essuyer, c'est chez une fille. Naturellement, j'ai tremblé un petit peu de la voix. Et ça s'est très très bien passé. Et puis vraiment, ils m'ont posé des questions très sensées. Et ensuite... cette directrice vient et me dit, c'est très bien, vous avez une demi-heure de repos et vous venez à la terminale. Je dis, quoi? Je vais recommencer ça maintenant, la terminale? Elle me dit, vous êtes dans le bain, tant qu'à faire, faites-le déjà, puisque vous êtes déjà ici. J'ai mis la terminale, c'est vraiment... Alors là, c'est vraiment des garçons, des filles, elles sont ensemble, ça va. C'est des on chahute, moi je ne peux plus parler, ça ne marche pas, ça c'est trop émotionnel. Elle me dit, non, vous allez voir. Effectivement, j'étais à la terminale, alors là, c'était exactement pareil. J'ai pas entendu une mouche voler, rien. Ils étaient là, à la bouche bée. Ils n'ont jamais pensé que ça pouvait arriver. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à parler. Et j'ai vu qu'effectivement, il fallait parler. Bon, alors, là-dessus, mes enfants ayant entendu que je parlais à autrui et pas à eux, m'ont dit quoi ? Tu racontes à tout le monde et nous, tu ne racontes rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ils étaient déjà mariés, mes enfants se sont mariés, le grand s'est marié en Belgique, à Anvers, le deuxième s'est marié en Belgique aussi, par des connaissances de mon fils. Et ils m'ont emmené les trois filles là-bas, mes deux garçons, avec des amis dont on connaissait la famille. Parce que chez nous, ça ne se passe pas dans un dancing, ça ne se passe pas dans un bal. On ne fait pas connaissance dans la rue. Ça s'est connu par la famille. Et ils sont tous les cinq qui sont en Belgique et en Anvers. Ils sont tous mariés là-bas. Et ils m'ont dit, écoute maman, absolument, il faut nous raconter. Comment voulez-vous que je mette mes enfants devant moi et que je leur raconte une histoire pareille? Ça, je ne pouvais pas faire. Je leur ai dit, écoutez, je vous fais une cassette. Et la cassette, vous allez l'écouter, mais pas quand moi je suis là. Je me suis mis dans un salon et j'ai commencé à faire une cassette, mais très sommaire. Naturellement, entre-temps, on sonnait la porte, le téléphone, il y avait les bruits de dehors, enfin tout le bruit, c'était interrompu. Mais j'ai fait cette cassette vraiment très enveloppée. D'ailleurs, ce que j'ai raconté aux enfants, aux jeunes filles, à l'école, j'ai raconté exactement ce que je vous raconte, mais c'était bien pire que ça. Et il y a des choses qu'on ne peut absolument pas sortir. On ne peut pas le sortir. Ça n'existe pas. Et alors, ils ont écouté la cassette. Naturellement, ils m'ont dit, maman, c'était très émouvant, on a pleuré toute la nuit. Je dis, je préfère que vous pleuriez pendant que je ne suis pas là, que je ne vois pas. Et la plus jeune de mes sœurs, de mes filles, m'a dit, maintenant, il faut que tu écrives. Alors, je dis, ça, je ne pourrai jamais. Ça, je te dis tout de suite, moi, je ne peux pas écrire. On dit que les paroles s'envolent, les écrits restent, mais ça, vraiment, écrire, tu vas voir, ça va venir. Et elle m'a pris la cassette et elle m'a tapé, la plus jeune de mes filles, m'a tapé au fur et à mesure mon histoire de la cassette. Et elle m'a dit, maintenant, maman, j'ai mis 3 jours pour le faire, parce qu'il fallait éteindre, allumer, éteindre, taper, il y a plusieurs années de ça, et maintenant tu vas l'écrire. J'ai dit, bon, donne-moi. Et j'ai laissé ce dossier dormir 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ma fille me dit, maman, est-ce que tu as déjà écrit ? J'ai dit, non, pas vraiment, pas encore. J'arrivais pas à écrire. Et un jour, elle m'a dit, écoute, je suis très fâchée. Tu m'as fait passer tellement de jours. J'avais 3 enfants, et j'étais embêtée avec les enfants, et j'ai tout laissé pour te faire ça. Et toi, tu ne peux pas l'écrire. Mais ça va rester pour la postérité. Tu n'as pas besoin d'éditer. Écrire seulement. Bon, alors je me suis mis à son raisonnement. Et un jour, mon mari était en voyage. J'ai profité que j'étais seule. Et j'ai un petit peu arrangé ça, aussi très sommairement. Et c'est le document que vous connaissez, où j'ai écrit mon histoire. Et je suis très content de l'avoir écrit, parce que je le divulgue dans les lycées, dans les écoles. J'envoie ça un petit peu partout, parce qu'on dénigre, on dit qu'il n'y en avait pas, ce forisson et compagnie. Et on ne peut pas inventer une histoire comme la mienne, et ni comme n'importe quel déporté, ça n'existe pas. Et tant qu'on est là, il faut absolument, absolument parler. C'est très important. Maintenant, je le vois.
Qu'est-ce que vous faites ?
Et je regrette qu'il n'y en a pas beaucoup qui le fassent parce qu'ils ne peuvent pas. Par exemple, mon mari ne peut pas. Il a essayé, mais ça ne marche pas. Il ne peut pas. Il a commencé à déchirer les feuilles et il ne peut pas.
Pourquoi
il ne peut pas ? Parce que lui, c'est un tendre qui est très sentimental. Moi, je suis plus fort de caractère, de ce côté-là. Il a beaucoup de qualités. Et je pense que quand il repense à tout ça, ça fait penser à sa famille et que ça, c'est pas vraiment ce qu'il a besoin. Il est déjà un peu plus âgé et il aspire un petit peu à avoir un petit peu de bonheur et qu'il a beaucoup de bonheur de ses enfants, de ses petits-enfants. Dieu nous a donné, Dieu merci, 5 enfants. Nous a redonné 25 petits-enfants, nous a donné 3 arrière-petits-enfants pour le moment. Et fonder une famille comme ça, après un camp de concentration, après avoir subi ce que nous avons subi, je trouve que d'abord c'est un grand miracle. Et on a pu faire ça uniquement que parce que On ne voulait pas penser au passé. Et ça, c'est très important. On n'est pas tombé en dépression. Vous avez énormément de gens qui sont tombés en dépression. Et si moi, par exemple, je n'ai pas eu, c'est grâce à mes parents, parce que j'ai pu me réintégrer plus facilement. Mais c'est très difficile de se réintégrer quand on a perdu tout le monde. Mon mari a retrouvé 4 frères. Ils sont plus tous vivants, mais 4 frères et 2 sœurs, dont une est déjà disparue aussi. Et ça l'a aussi un petit peu renforcé pour se réintégrer. Puis il s'est marié, et ses frères se sont mariés. Donc, ils ont pu un petit peu se réintégrer grâce aux retrouvailles. Mais des gens qui sont revenus, qui n'ont plus personne, qui n'ont retrouvé plus personne, qui sont restés orphelins de père, de mère, de sœurs, de frères, et qui se sont trouvés seuls au monde, pour se réintégrer dans la société, c'est très difficile. Et je ne vous parle pas de la santé qu'on a perdue. Ça, c'est un point culminant qui est très difficile à résoudre. Parce que qui est revenu en bonne santé? Personne. Plus ou moins, mais pas vraiment. On est tous malades. Mais il faut être philosophe. Il faut passer par-dessus. Et prendre la vie comme elle vient, et remercier Dieu chaque jour qu'on peut subvenir à ses besoins corporels, physiques, moraux. C'est très difficile, mais c'est toujours avec la foi en Dieu qu'on peut faire ça, que ce soit foi catholique, protestante, musulmane, tout ce que vous voulez. Mais quand on croit en quelque chose, on s'accroche à cette quelque chose et on espère que tout va bien marcher. Et souvent on a beaucoup de succès avec ça. C'est très, très, très difficile de vous faire un sujet sur la réintégration parmi les gens qui sont en dépression. C'est très difficile. Et j'en connais, moi, qui sont aujourd'hui encore en dépression. Parce que d'abord, ils ne sont pas en bonne santé et parce qu'ils n'arrivent pas à oublier. Des gens qui ont passé des Polonais, des ghettos de Varsovie, qui ne vont jamais oublier de leur vie. Je peux un peu les comprendre parce que lorsque j'étais en Israël, à Yad Vashem, et que j'ai vu pour la première fois de ma vie des photos du ghetto de Varsovie, je suis sorti bouleversé. Avec tout ce que moi j'ai passé, je pensais que ça c'était rien à côté de ce qu'ils avaient. C'est effrayant, effrayant. Et cette personne que je connais qui a fait le ghetto de Varsovie, Auschwitz, Buna, qui a fait énormément de camps, et qui est encore aujourd'hui très perturbée, commence un petit peu à parler maintenant seulement, mais je comprends qu'il ne peut pas oublier ça. Le ghetto de Varsovie, on ne peut pas oublier ça. C'est quelque chose, c'est épouvantable. C'est pour ça que la réintégration, c'est très difficile. Et c'est aussi un miracle pour moi qu'on a pu se réintégrer et refonder une famille telle que nous avons.